Je vais introduire mon propos en disant que je suis en thèse, là j'ai une thèse qui est en cours, et je viens saisir la question des affects à partir de mon corpus de données. En fait, les affects, c'est pas ce qui est central dans ma thèse, mais donc je suis allé chercher dans ce que j'ai fait pour l'instant, dans mes données, et je me suis posé la question, où y a-t-il de l'affect qui s'exprime? Donc j'ai trouvé un certain nombre d'occurrences, j'en ai choisi quelques exemples que je vais vous présenter. Je les ai distingués de façon assez simple, assez basique peut-être, mais entre deux éléments. D'un côté les troubles, on pourrait dire les gênes ou les contrariétés, et de l'autre côté plutôt ce qui relève de l'aisance et du contentement. Alors j'ai pas voulu justement poser la question qu'est-ce qu'un affect ou que sont ces affects dans les lieux urbains, mais plus simplement, me semble-t-il, comment apparaissent-ils en situation? Et aussi, deuxième question, comment cette mise en perspective de l'éprouvé affectif avec la situation qui le produit nous informe sur le fonctionnement de celui-ci? Donc, je précise que c'est une thèse de sociologie qui a pour objet, on va dire, l'urbanité de la ville de Saint-Étienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'objet urbanité, même si on pourrait en dire pas mal, mais c'est pas, c'est voilà, je vais vraiment me focaliser sur la question affective. Donc c'est une thèse, bien sûr, en cours, donc en chantier et donc en désordre. Et voilà, il faut donc souligner la dimension aussi exploratoire de cette proposition que je vous fais aujourd'hui, qui est plutôt à considérer comme une tentative réflexive sur les affects dans la ville. Alors je mobilise des données de plusieurs types. Certaines sont issues d'entretiens que j'ai réalisés. Des entretiens que j'ai réalisés sur la perception et le sentiment lié à la ville dans le cadre de la Biennale du design pardon, qui est une grosse manifestation à Saint-Étienne d'il y a un an, un peu plus d'un an. D'autres données sont issues d'itinéraires. Alors, Shérif en a parlé tout à l'heure, les itinéraires commentés, on va dire, hein, donc une méthode qu'on doit à Jean-Yves Petitot. Et troisième type de données, des notes de carnet de terrain que j'ai un peu remaniées. Donc c'est à partir de ces ressentis, non pardon, je souhaite interroger ces ressentis à partir des situations de leur émergence. Donc c'est un peu ça l'objet de mon propos aujourd'hui. C'est donc de les remettre en perspective, les remettre dans la perspective de l'action et de l'expérience qui les occasionne. Et donc du coup de chercher à comprendre nécessairement le point de vue de l'acteur, de l'usager. Alors je vais commencer par la question des troubles et des contrariétés. Donc je vais vous donner des exemples et si je me pose la question de qu'est-ce qui est contrarié dans ces cas-là, je peux déjà apporter quelques éléments de réponse introductifs. Il me semble que ce qui est contrarié, ce sont des usages projetés, des habitudes d'action. Et on peut dire ces habitudes ou ces usages, ils sont troublés au sens propre. Hein. Tout à coup, on n'y voit plus rien. Tout à coup, ça devient flou. Hein. Ce qu'on avait prévu, ce dans quoi, pardon, nous étions engagés, tout cela est contrarié et dérangé. La situation nous demande de réviser notre posture, notre engagement, notre manière d'agir, car elle donne le sentiment que quelque chose ne va pas, sous-entendu que quelque chose ne va pas comme ça devrait. Voilà. Donc j'appellerais ça avec Marc Brevillieri des troubles de la familiarité. Alors je vais prendre un premier exemple qui me permet de, enfin que j'ai intitulé l'interaction troublée qui peut inciter au retrait. Alors c'est le cas d'une jeune fille de 22 ans que j'ai interrogée en entretien. Alors je vais vous citer un bout d'entretien. Oui, je trouve qu'il y a des rues qui font un peu glauque, ou même il y a des garçons qui squattent, et du coup ça donne pas envie de passer. C'est ce genre de rue où il y a rien, où les gens se posent. Je sais que moi, en général, si je vois au loin des groupes, eh ben, je trace. Je ne regarde pas, j'évite le regard en général. Je regarde où je marche, voilà, ça s'arrête là. Ouais, parce que des fois, ça arrive de regarder les personnes, mais on ne sait jamais comment elles vont le prendre, ou alors elles vont commencer à aborder, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on avait envie. Donc, cette jeune femme, elle est troublée, elle est gênée dans son déplacement habituel, dans sa circulation habituelle. On supposera que sa circulation habituelle, c'est sous le mode de l'inattention civile. C'est-à-dire qui consiste à ne pas être abordé, à ne pas être intrusé. On pourrait discuter des mots, mais je vais. Voilà, l'inattention civile qui est un concept qu'on doit à Goffman. Donc le trouble qu'elle ressent a lieu lors d'interactions avec des groupes d'hommes qui sont statiques devant des bars et souvent d'origine maghrébine. Le comportement de cette femme, donc, obéit à un certain ordre de l'interaction et elle attend implicitement la confirmation par la situation de l'ordre qu'elle a incorporé. D'accord ? Et le comportement des groupes d'hommes obéit à un autre ordre d'interaction. Et entre ces deux comportements, la coordination n'a pas lieu. On pourrait dire la consonance n'a pas lieu. Deuxième exemple que j'ai appelé l'usage troublé par les lieux. Alors c'est une femme de 38 ans qui est mère de deux enfants. C'est en entretien également. Les magasins fermés, je trouve ça triste pour la ville. En effet, quand on se balade dans une rue et qu'on voit 3 ou 4 magasins vitrines sans rien, c'est triste. Oui, parce que c'est agréable de se balader, de voir des choses, de regarder, d'entrer. Voilà, c'est pas monotone, c'est triste de voir des vitrines sans rien dedans, sales, parce que un manque de vie, quoi. Donc là, c'est une forme d'engagement dans les lieux, une disposition attendue des lieux qui provoque la contrariété. Cette femme s'engage d'habitude dans une certaine posture attentionnelle et gestuelle, qu'elle attend donc, et qui ne peut pas s'effectuer ici. Donc cette posture, à mon avis, enfin, on peut la recomposer, c'est ce que j'essaye de faire ici, donc cette posture consisterait, elle en parle un peu d'ailleurs, elle consiste à regarder les vitrines, à entrer, à sortir, à avoir un rythme de marche varié, avec des arrêts, un réglage de l'attention sur des objets qu'elle cherche à acquérir, un regard qui détaille. Donc je dirais que ici l'affect provient d'une invite des lieux qui n'est pas adaptée à son usage. Les lieux l'invitent à ne pas faire ce qu'elle souhaite ou à faire ce qu'elle ne souhaite pas. Alors, invite, hein, je renvoie à Gibson, à sa notion d'affordance, et je la traduis par invite, ce qui me semble plus clair que traduire par prise, à mon avis. Alors, troisième exemple. C'est un extrait de mon carnet de terrain et j'ai appelé ça l'engagement troublé. Pardon. Alors, je cite donc cet extrait. « Lorsque j'emprunte la rue Gambetta, je suis souvent frappé par une baisse de l'activité et du mouvement en général. Une partie de la rue, aux architectures solennelles, type 3e République, et aux teintes sombres, pardon, m'apparaît figée et vide. Elle m'invite à presser le pas, à ne pas m'attarder, à rentrer, à circuler. » Alors, essayons de comprendre à partir de cet petit exemple. La posture dans laquelle je suis engagé, donc la marche, le passage, d'habitude dans mes déplacements à pied, je m'appuie sur des éléments qui distraient mon attention de façon périphérique et peu consciente. Dans mes déplacements, donc je répète, que je m'appuie sur des éléments qui distraient mon attention de façon périphérique et peu consciente, par exemple des vitrines, donc je regarde des vitrines, des personnes, des visages, des façades, des paysages ou en tout cas des événements. Donc mon attention est distribuée de cette manière. Et dans la situation qui nous occupe là, ces appuis à mon engagement me sont retirés. Donc je me recentre sur l'aspect fonctionnel de mon action, qui est le déplacement. Mais l'autre mode d'interaction à l'environnement, ou l'autre canal d'attention, comme dit Goffman, est coupé. Donc la composition de mon engagement familier se trouve ainsi contrariée ou troublée. Et je me retrouve démobilisé dans mon trajet, désorienté. Alors, voilà, un autre exemple issu de mon carnet de terrain que j'ai appelé la posture troublée. Lorsque je passe dans une rue piétonne de petite dimension où je me trouve à faire face à des dizaines de gens à quelques mètres, attablés à des cafés, émerge un sentiment d'inconfort. Ici, la visibilité réciproque est compliquée, difficile à gérer. La conduite du regard et du corps du passant, qui flâne et qui regarde lentement les vitrines, par exemple, est contrariée par la situation. Les personnes attablées et immobiles ont tout le loisir de regarder le passant, dans une proximité qui est troublante, car l'espace exigu leur propose peu de foyers d'attention. Ainsi, passer dans cette rue donne l'impression d'être dévisagé, d'où un sentiment de malaise, voire plus de honte éventuellement. En somme, ici, dans cet exemple, le trouble provient d'un usage qui est empêché, qui est celui du flâneur avec son attention spécifique, une attention diffuse et flottante d'une certaine manière. Donc c'est une distribution des corps en situation de coprésence qui est ici éprouvée comme difficile. C'est donc une question de coordination de posture, on pourrait dire. Alors je relève, pour terminer sur cette question des troubles, des points communs à ces différents exemples. Deux points communs. Alors, je crois que l'attention reste focalisée dans ces différents exemples sur le moment de l'interaction. Et on a du mal à s'en extraire, à dépasser ou à passer à autre chose. Il y a fixation sur le moment de l'interaction, sur la situation, voire, dans les cas plus graves, une hantise, hein, qui peut se transformer en hantise. La deuxième chose, c'est on remarque que ces situations sont troublées par un élément singulier, ou en tout cas singularisé, de l'interaction. Je dis bien singulier et non pluralisé ou pluriel. Hein. Alors, je vais passer au deuxième point, qui est le point sur l'aisance. Alors, j'ai fonctionné de la même manière. Hein. Je vais égrener quelques exemples en essayant de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est rendu commode? Qu'est-ce qui est contenté? Alors, un entretien avec un homme de 66 ans que j'ai intitulé donc « Le plaisir d'habiter ». Ça me fait plaisir parce que c'est un endroit que je connais. Oui, je le connais, c'est un endroit où j'ai l'habitude d'être. Et enfin, c'est peut-être dans mon caractère. J'aimerais bien vous dire que je suis à Saint-Étienne parce que les immeubles sont jolis, parce que la mairie est magnifique. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire ça. Enfin, c'est une sécurité. C'est un lieu où j'ai l'habitude de vivre, oui. Puis j'ai peut-être quelques repères à droite, à gauche. Quand je passe devant une librairie, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est là où je vais retrouver un bouquin ou je ne sais pas quoi. Quand je vais acheter, mettons, deux pommes, machin, je sais que je vais rencontrer truc. Ou si je vais chez un autre acheter ma bouteille de vin. Enfin, bref. Enfin, à chaque fois, c'est un plaisir. Enfin, oui, c'est un plaisir. Donc cet homme, il nous parle d'un sentiment plaisant et diffus, je dirais. Il retire du plaisir de la connaissance des lieux et des gens qui les habitent. Il dispose, je dirais, de cadres, c'est-à-dire qui réduisent le coût cognitif et induisent des engagements plus sûrs. Ces cadres lui procurent une certaine sécurité ontologique. Donc là, je vais passer, c'est la notion qu'on doit à Anthony Giddens. On peut appeler ça un sentiment d'être chez lui, hein, ce qui est quand même... voilà. On peut supposer qu'au contraire, la fragmentation de l'expérience dans des épreuves changeantes et instables rende difficile un tel sentiment d'aisance. Alors, deuxième exemple, c'est un itinéraire commenté avec un homme de 42 ans. J'ai appelé ça « se laisser dépasser par la situation ». Ou, deuxième titre possible, « l'engagement perceptif ». Ouais, j'allais dire, quand on commence à s'approcher là, il se passe quelque chose. J'arrive pas à identifier si c'est des caractéristiques. Enfin, j'ai une vague idée. Pour moi, Saint-Étienne égale donc nord-sud, des axes nord-sud. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a un autre qui s'esquisse, des pentes du Jardin des Plantes, enfin, en gros, de la place Villebeuf, et qui après part dans ce sens-là. Il y a quelque chose. Enfin, il n'y a pas plus d'ouverture, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression de respirer plus que quand je suis ailleurs. Mais je sais pas, est-ce que c'est dû à cette histoire d'eau ? D'absence d'eau, qu'on dit tous caractéristiques de Saint-Étienne, et qui ici se fait sentir. Enfin, ça a toujours été un endroit qui m'a intéressé. Donc je dirais que ce qui est contenté ici, c'est la recherche d'un lieu intéressant et plaisant, qui trouve son objet, d'une certaine manière. On voit que l'intérêt se forme dans un... L'intérêt ici, à la situation et au lieu, se forme dans un feuilleté, dans une pluralité d'occurrences. Donc, je ne vais pas détailler, mais lors de l'entretien, il me parle... de pas mal d'autres choses qui sont, disons, assemblées autour de ce lieu. Et puis, dans le parcours, c'est un entretien, mais c'est un itinéraire, il surfe, je dirais, sur des occurrences et semble disposé à questionner la situation dans sa pluralité. Ce qui se passe ici, dans la situation, il le dit lui-même, n'est pas clair. Pourtant, il apparaît clairement que ce qui s'y passe lui procure un sentiment agréable. Alors, c'est souvent le cas avec les affects, hein, c'est pas forcément très clair, mais pourtant c'est évident, ça s'impose. Il peut y avoir du trouble. Alors, il accepte, je dirais, de se laisser dépasser par la situation, et comme dit, pour citer Merleau-Ponty, qui parle de l'hospitalité, des êtres qui sont dépassés par leur monde, en conséquence, peuvent bien être dépassés l'un par l'autre. Alors voilà, je voulais risquer l'hypothèse d'un type d'engagement que j'appellerais l'engagement perceptif. Dernier exemple, c'est un entretien avec une femme de 41 ans. J'ai appelé ça la coordination d'un espace du sentir, ou plus simplement coordination d'une ambiance. Mais je trouve qu'ici, on peut se permettre de laisser flotter, en fait. Ce que je ne trouvais pas sur Lyon. Lyon, on est sur un rail, ça avance. C'est presque comme si le décor bougeait tout seul. On est sur un tapis roulant, en définitive. Que là, on se déplace soi, on est moins absorbé. Ouais, on peut davantage rêvasser. Enfin, plus léger. Qu'est-ce qu'on laisse flotter, alors? Ben, une attention. laisser flotter une attention, ça veut dire qu'elle n'a pas à se fixer sur quelque chose, qu'elle n'est pas focalisée sur quelque chose, ouais, ou déterminée, ou imposée, voilà. C'est peut-être dû à ces absences de rez-de-chaussée avec des néons, enfin des choses très visuelles, happantes, quoi, et omniprésentes qu'on peut retrouver ailleurs. Là, ici, c'est ces espèces de friches, ces zones anciennes qui permettent de ne pas être absorbées, de pouvoir poursuivre un regard, de prolonger. Donc, ce qu'elle nous décrit ici, me semble-t-il, c'est un état du corps qui est rendu possible par l'environnement. Un sentiment agréable, une attention flottante, une perception diffuse, et aussi le sentiment d'une continuité, d'un rythme. Je trouve qu'on voit dans cet exemple à quel point la conduite de l'attention et du regard est une coordination, alors vous me permettrez d'écrire ça en deux mots, coordination entre le lieu et la personne, entre une ambiance et un comportement, entre un usage et des attentes. Voilà, ces différents exemples sur les formes d'aisance dans la ville me semblent avoir pour point commun, un sentiment que je dirais diffus, multifocalisé, et je crois en devenir, et un objet pluriel, c'est-à-dire une pluralité de choses et d'occurrences qui mobilise plusieurs choses, hein, à la fois la réflexion, la mémoire, la perception, etc. Alors pour conclure, voilà, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que le trouble peut se comprendre comme une contrariété rencontrée dans un cours d'action, voilà, c'est la notion de cours d'action, ou encore comme un usage qui est mis en question par la situation. Donc pour parler comme Laurent Thévenot, je dirais que dans le cas des troubles, ce sont les manières dont la personne se lie à elle-même via un certain rapport de dépendance au monde sont mises en défaut. L'environnement n'est pas convenablement disposé et ne correspond pas au format de l'approprié de la personne. Dans les cas d'aisance, au contraire, ces façons dont la personne se lie à elle-même via un certain rapport de dépendance au monde semblent plutôt se vérifier dans la situation. Et si l'environnement est convenablement disposé, c'est sans doute parce que le format de l'approprié est plus souple, plus ouvert, avec une part d'incertain. Et je dirais que l'éprouvé est co-construit avec la situation qui n'est pas définie a priori. Il y a donc acceptation d'un éprouvé en devenir qui ne s'épuise pas dans la seule situation d'interaction, mais fait appel à d'autres choses par ailleurs. Voilà. Donc il y a des ailleurs qui interviennent dans la situation et qui, quelque part, produisent, en tout cas dans ce que j'ai pu observer ici très rapidement, vont plutôt du côté de l'aisance. Alors, pour vraiment terminer, je dirais que une compréhension microsociologique de l'affect amène à le considérer, cet affect, comme une expérience en progression, en variation, et une expérience que l'on peut saisir en fonction d'un certain dosage entre éprouver et agir. Puisque ce que nous dit John Dewey, c'est que l'expérience est un certain dosage entre l'éprouver et l'agir, et que quand on passe d'un côté d'hypertrophie de l'éprouver ou d'hypertrophie de l'agir, l'expérience n'a pas lieu, l'expérience n'est pas composée sous forme d'expérience. Et il insiste sur la dimension esthétique de toute expérience. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Olivier pour ces lectures.